J'ai dû louper un épisode. Les interviews de Pascal Fourier. Avec aujourd'hui Jean-Luc Gréau, économiste, auteur en 2005 de L'avenir du capitalisme et en 2008 de La trahison des économistes. Je vous rappelle le contexte de cet entretien réalisé le 14 janvier 2010. En décembre, j'ai pris contact avec quelques économistes pour comprendre les tenants et les aboutissants de la crise. Parmi ceux-ci, Jean-Luc Gréau, que j'avais déjà interviewé il y a fort longtemps, en 2006, dans le cadre de l'émission d'Aligre FM « Des sous et des hommes ». 4 ans après, je l'ai encore fait sursauter en lui disant incidemment et par erreur qu'il était homme de gauche. Non, il a travaillé pour le MEDEF. Il a aussi cru longtemps dans les vertus du libre-échange avant d'être obligé, de son aveu même, de constater les effets délétères de celui-ci et de le dire, ce qui lui coûte cher. Vous verrez, c'est un entretien dans l'atmosphère bruyante d'un petit bar du 18e, un entretien un peu à bâton rompu, une sorte d'entre-soi avec des questions d'une naïveté parfois un peu déconcertante. Mais vous verrez, Jean-Luc Gréau répond sans détour. Première des deux parties de notre entretien. J'ai eu du mal à suivre ce qui se passait pour la crise. Finalement, quand j'écoute les médias, on a l'impression que maintenant, tout va bien. C'est effectivement le cas?
Non, mais ce que l'on entend dans la plupart des médias, c'est une sorte de consigne qui a été donnée de réarmer le moral des troupes, c'est-à-dire le moral du consommateur et le moral de l'investisseur, parce que les politiques et les médias pensent que la psychologie joue un rôle déterminant dans la sortie de crise, et par conséquent, il faut essayer de recréer un contexte d'optimisme en agissant sur le consommateur et l'investisseur. Je pense que c'est une erreur, en ce sens que l'économie obéit le plus souvent à des facteurs beaucoup plus objectifs que la psychologie des individus ou des entrepreneurs, et par conséquent, cela ne donnera rien dans la pratique. Ce qu'il faut étudier, ce sont les facteurs qui sont à l'œuvre et qui peuvent nous sortir de la crise ou au contraire, nous faire rechuter dans la crise.
Et quels sont ces facteurs, justement?
Ces facteurs sont assez simples. Nous avons, premièrement, la consommation, deuxièmement, l'investissement. Alors, s'agissant de la consommation, nous avons, hélas, une situation de l'emploi extrêmement détériorée dans tous les pays occidentaux, puisque la France, qui est statistiquement le pays le moins touché par la crise, a quand même supprimé 500 000 emplois entre le printemps 2008 et l'automne 2009. Les États-Unis ont supprimé, dans les faits, entre les emplois légaux et les emplois illégaux, environ 9 millions d'emplois, ce qui est énorme. En Espagne, on est aux alentours de 1 800 000 emplois détruits, c'est un pays de 44 millions d'habitants. On mesure donc l'ampleur de la dépression qui s'est abattue sur l'Espagne. Dans ces conditions, on voit mal comment la consommation pourrait repartir brutalement. Elle s'est maintenue dans certains pays à des niveaux acceptables, au prix d'un endettement de l'État qui a déversé, sous forme de primes à la consommation, à la casse, à l'achat des logements, des ressources supplémentaires. Mais les États ne peuvent pas indéfiniment s'endetter pour soutenir artificiellement la consommation des ménages. Deuxième facteur, c'est l'investissement. Or, les entreprises sont affaiblies par la crise, dans la plupart des pays. Elles vont de plus en plus être tentées de localiser leurs nouveaux investissements dans les pays à bas coût. Pour une raison, cette fois-ci, assez nouvelle, c'est que le consommateur va s'orienter vers des produits à bas prix, à relativement bas prix. Il fera un arbitrage. Un produit à relativement bas prix implique un coût du travail bas, low cost. Donc nous avons là une situation tout à fait dangereuse. Bon. Donc il est à prévoir que de plus en plus, les entreprises vont essayer de s'installer sur des sites favorables du point de vue du coût du travail. Et je prends une illustration qui est en train de secouer les médias et la politique française, c'est-à-dire le fait que Renault a préparé très discrètement une nouvelle délocalisation, celle d'une voiture de grande diffusion à grand succès, la Clio, qui était faite à Flins. La Twingo n'est plus faite à Flins et la Clio ne devrait plus l'être. Donc ce sont des décisions lourdes et qui vont peser comment fera-t-on pour maintenir l'emploi avec des décisions aussi lourdes? Mais cela illustre cette tendance qui devrait se renforcer dans les années à venir de la recherche du bas coût.
Les causes de la crise, c'est effectivement ce qu'on a pu entendre dire, la faute des traders, la mathématisation de certains produits économiques, ou finalement, il faut savoir regarder au-delà.
Oui, non, mais il est tout à fait vrai que nous avons, depuis 30 ans, développé une sphère des paris financiers, ce sont les salles de marché qui illustrent cette activité. Cette activité est au mieux inutile et au pire elle est nuisible. On l'a bien vu avec la crise qui est survenue. Or, je voudrais insister sur un point essentiel avant d'aborder le fond de la crise. Aux États-Unis, Paul Volcker, ancien président de la Banque centrale. En Angleterre, Mervyn King, l'actuel président de la Banque d'Angleterre, ont officiellement demandé la fin du proprietary trading, c'est-à-dire du trading pour compte propre des banques. Ce qui signifie, à contrario, que les banques peuvent toujours faire des opérations de trading, mais pour le compte de leur clientèle, ce qui est normal. Bon. Mais cela signifie une contraction dramatique des activités de marché des banques, qui font actuellement leur profit grâce à cela, étant donné que leurs activités de prêt sont plutôt perdantes. Bon. Le débat a été ouvert aux États-Unis et en Angleterre. Il ne l'est pas chez nous, où on ne fait que s'exprimer sur les bonus des traders, qui n'est pas le sujet. Bon. S'il y avait 5 ou 6 fois moins de traders qu'il y en a actuellement, eh bien nous aurions une situation tout à fait décantée et n'aurions plus à nous occuper des bonus des traders. Mais les bonus eux-mêmes sont calculés en fonction des profits qu'ils rapportent à la banque. Bon, si la banque fait des opérations de trading pour le compte de sa clientèle, elle ne fait pas pour elle, par définition. Donc c'est un point essentiel et qui n'est pas compris par les analystes médiatiques. Alors, sur le fond de la crise, on le sait, hein, c'est une crise du libre-échange mondial, due au fait que les revenus dans la plupart des pays occidentaux ont été artificiellement déprimés pour réduire les coûts de fonctionnement des entreprises. Et la compensation, différentes personnes le disent, Jacques Sapir le dit, donc je suis entièrement d'accord avec lui sur ce point, on a compensé cette insuffisance des revenus par un endettement spécifique, plus ou moins disproportionné selon les pays, très fort en Espagne ou en Angleterre, ou aux États-Unis, en Australie, voire en Corée. Donc, et maintenant, nous payons cela par une défaillance de nombreux ménages. Le dernier chiffre que nous avions pour les États-Unis, c'est 9% de défauts de paiement ou de retard de paiement, ce qui est énorme. La nouvelle statistique paraîtra à la fin du mois de février. Nous saurons si ce chiffre s'est aggravé ou si, au contraire, il y a une amélioration. C'est un point essentiel parce que 9%, ça signifie que le gisement de prêts aux ménages continue d'être perdant pour les prêteurs, sociétés de crédit et banques. Bon. Donc, cet endettement artificiel a donné des effets pervers, c'est-à-dire la crise financière. Il ne faut pas mésestimer, bien sûr, les méfaits de la titrisation, c'est-à-dire le fait que les banques ou les sociétés de crédit ont ensuite remis sur le marché les prêts qu'elles avaient consentis. Et ceci a rendu les marchés opaques et beaucoup d'investisseurs ont acheté des titres dont ils ne connaissaient pas la vraie valeur. Mais néanmoins, à l'origine, il y a surtout un déséquilibre de la production et des revenus à l'échelon global de la planète. Donc, si nous ne sortons pas de cette contradiction, nous ne pouvons pas avoir une reprise durable et significative.
D'un certain côté, vous me faites rigoler, parce que quand je vous demande quelle est la cause de la crise, vous me dites « c'est une crise du libre-échange, j'entends ça nulle part ailleurs, pourquoi ?»
Parce que le libre-échange est devenu sacro-saint, ce n'est plus un point à débattre pour savoir dans quelle mesure il apporte des avantages, dans quelle mesure il peut recéder des inconvénients. Le libre-échange est une expression naturelle du marché. Donc l'idéologie des marchés dont nous sommes victimes aujourd'hui pose le libre-échange comme un bien intangible. Les choses commencent un tout petit peu à bouger, les gens s'aperçoivent que dans ce grand pari de libre-échange qui a été fait avec la signature des accords de l'OMC en 1994, c'est l'Asie émergente et tout particulièrement la Chine qui est la grande gagnante, tandis que les pays développés ou les pays pauvres d'Afrique ne sont pas les gagnants. Il y a deux grandes catégories de perdants, pays développés d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Nord, et d'autre part des pays pauvres qui ne peuvent pas prendre le train de la compétition mondiale, tout spécialement en Afrique. Les pays gagnants, c'est l'Asie émergente, et c'est aussi, jusqu'à un certain degré, certains pays producteurs de matières premières qui bénéficient énormément de la demande croissante de ces matières premières, comme l'Australie, le Canada, etc. Mais néanmoins, et globalement, on peut dire que nous sommes dans une situation, dans une sorte de nasse. Hein. Le libre-échange nous a mis, paradoxalement, le libre-échange incarne l'ouverture, il place les pays qui s'y livrent dans une nasse. Hein. En même temps, il faut ajouter une chose, c'est que si l'Asie émergente et la Chine sont gagnantes, ces pays sont en même temps, jusqu'à un certain point, prisonniers de leur courant exportateur vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Bon. Et c'est pourquoi il leur faudrait en fait plusieurs années pour modifier leur schéma de croissance et se reconvertir sur un schéma fondé plus largement sur leur demande intérieure. Mais ils ont donc fait eux-mêmes un choix de l'exportation qui les rend dépendants de notre bonne santé. Or, nous sommes plus en bonne santé.
J'entends déjà mes auditeurs dire, mais comment Griot dit que les pays développés et les pays pauvres sont les grands perdants du libre-échange? Il est bien le seul à le dire. J'entends strictement exactement l'inverse dans tous les autres médias. Alors?
Oui, ben les médias ont du mal. Bon, il faut faire la part des choses. Hein. Tous les médias ne sont pas aussi dogmatiquement enfermés dans ce culte du libre-échange. Néanmoins, je crois qu'il faut apprécier les choses de la façon suivante. Le pari du libre-échange qui a été fait il y a à peu près 15 ans, ce pari, tout le monde ou presque y a adhéré. Il est très difficile pour des gens qui ont fait un choix aussi lourd d'un point de vue idéologique et pratique, à un certain moment, de bifurquer. Hein. Il faut qu'ils connaissent leur chemin de Damas, pour parler de façon illustrative, et c'est très difficile. Hein. Donc, en ce qui me concerne, et ça je le dis quand j'interviens sur le sujet, je dis... Je suis un libéral et un libre-échangiste de tendance propre. Je ne me suis converti à l'idée du progressisme européen que de façon graduelle, au fur et à mesure que j'ai aperçu les dégâts d'un échange inégal et inéquitable.
Pourquoi vous dites le pari du libre-échange? Quels ont été les tenants et les aboutissants?
Voilà, ce pari, c'est simple, c'est des pays développés, anciennement développés, les États-Unis, le Japon, l'Europe occidentale, vont se réserver la part noble de la production à l'échelon mondial, la haute technologie et les services financiers, pour parler simplement. Bon. Le résultat, c'est que, les services financiers ont montré qu'ils étaient capables de mettre en faillite les États avec eux. Et deuxièmement, en ce qui concerne la haute technologie, nous voyons bien que l'Asie émergente est en train de se développer de façon méthodique, et de monter en gamme, comme on dit, dans différentes activités. Donc maintenant, le doute n'est plus permis. Ce partage des activités nobles d'un côté et non nobles de l'autre correspond à une vision artificielle qui est démentie par les faits. Je dis, à certains moments, il y a un préjugé raciste de supériorité de l'homme blanc qui est à la base. Bon. Nous sommes les plus forts. La technologie, c'est notre force. Oui, mais les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, sont-ils incapables? Les Malaisiens sont-ils incapables? Non, ils le démontrent. Ce qui est très troublant, c'est que nous avons eu pendant les années 60, 70, 80, l'expérience des dragons asiatiques. Taïwan, Corée, Thaïlande, Hong Kong, Singapour. Donc, des pays asiatiques qui ont démontré leur capacité, en dehors du Japon, à devenir des véritables puissances économiques. Bon. Le revenu par tête et le PIB par tête de la Corée a été multiplié par 200 entre 1960 et 2009. Bon. Or, ceci aurait dû nous démontrer que nous, les Blancs ou les Européens, si je préfère, parce que l'Amérique du Nord, c'est une colonie de peuplement européenne. Bon. Donc, nous n'étions pas les meilleurs du monde pour toujours.
Pourtant, le libre-échange a été soutenu, défendu, prôné par les États-Unis.
Oui, les États-Unis, justement, bon, il y a, je pense qu'il y a de très longue date, un G2 invisible, qu'à partir du moment où Richard Nixon et Henry Kissinger sont allés en Chine rencontrer Mao Tse-tung, Chou Enlai et Deng Xiaoping, c'était en février 1973. Cette démarche paraissait peu compréhensible. quand on sait qu'au même moment, la guerre faisait rage, toujours rage au Vietnam, et où les communistes vietnamiens étaient soutenus par la Chine. Mais maintenant, nous comprenons mieux qu'il y avait un enjeu derrière, c'est l'entrée de la Chine dans l'arène de la compétition mondiale, ce qu'a fait Deng Xiaoping après la disparition de Mao Tse-Tung. Au départ, la situation économique chinoise était tellement fragile que personne ne s'est méfié de cette conversion, alors qu'en réalité, elle annonçait l'arrivée d'une très grande puissance dans le champ mondial, et que nous allons voir de plus en plus se manifester.
Mais les États-Unis, finalement, de facto, maintenant, n'ont plus forcément un avantage au libre-échange.
Oui, alors il y a, sur les États-Unis, il faut voir, bien comprendre qu'avec l'Angleterre et les États-Unis, qui sont les vrais champions du libre-échange à l'échelon mondial, les opérateurs financiers jouent un rôle déterminant dans la conduite de la politique économique. Bon, quelqu'un, l'ancien chef économiste du FMI, a dit il y a un corridor Wall Street-Washington, hein, donc du lobbying des financiers, qui est encore visible aujourd'hui, puisque la nouvelle administration n'a pas voulu mettre au pas le système bancaire. Mais c'est le choix du libre-échange, et donc la localisation, quand c'est possible, dans des pays à bas coût du travail et de la matière grise, augmente mécaniquement les profits. Et la création de valeur pour l'actionnaire peut se développer de façon plus intense à partir de cela. Donc il y a un lien extraordinairement étroit entre les marchés boursiers proprement dit, en Occident, et le développement de la localisation des emplois et des investissements dans les pays à bas coût du travail et de la matière grise.
Je dois avoir une question un peu idiote, hein. Mais comment on peut privilégier le fait de faire du bénéfice pour les actionnaires au détriment des salariés de son propre pays?
Ben c'est une forme de schizophrénie. Vous avez raison de vous étonner de cela. C'est pas de la stupidité. Ça démontre l'incohérence de ceux qui ont fait ces choix. Ils ont cru qu'il était possible artificiellement de gonfler les revenus actionnaires, de gonfler les hauts revenus. Hein. Quand on voit que la part du travail dans la valeur ajoutée a baissé de façon importante dans un pays comme les États-Unis, on oublie qu'en même temps, dans cette part du travail, on comptabilise les traders et leurs bonus, les cadres supérieurs et leurs bonus, leurs salaires et leurs bonus, les médecins spécialistes, fort bien payés dans des pays comme le Canada ou les États-Unis, les juristes d'affaires, les comptables, toutes ces catégories qui ont vraiment profité de l'évolution libérale ou néolibérale que nous avons connue depuis 25 ans. Donc même en comptabilisant ces revenus du travail sous forme de salaire ou d'honoraire ou de prime dans le travail, nous avons une part du travail dans la valeur ajoutée qui a baissé. A contrario, ça veut dire que les classes modestes et moyennes ont souffert.
Oui, mais c'est gênant.
Oui, c'est surtout suicidaire, puisque nous n'avons plus la base de revenus suffisante pour permettre une croissance stable et durable.
Mais peut-être en même temps, on pourrait se dire, c'est bien finalement même si ça doit porter tort aux salariés de notre propre pays, si le libre-échange, si l'organisation économique telle qu'elle est, permet le développement de sortir de la misère des Chinois, des Indiens, etc., c'est
bon,
très bien.
Alors d'abord, nous ne devrions pas avoir à tenir ce genre de raisonnement. Si le libre-échange est bon, il doit permettre de donner une majorité d'avantages aux protagonistes de l'échange. Bon. Il ne faut pas qu'il y ait des perdants d'un côté et des gagnants de l'autre. Néanmoins, je crois que ce raisonnement est fallacieux, puisque la plupart de ces pays peuvent développer leur demande interne. Et je donnerai deux grands exemples de pays qui n'ont pas suivi le schéma de la croissance par l'exportation à tout prix. Ces deux pays s'appellent l'Indonésie, 230 millions d'habitants, et le Brésil, 200 millions d'habitants. En Indonésie, le PIB comporte 65% de consommation. C'est-à-dire un chiffre conforme à celui des pays occidentaux. Et le Brésil a un commerce extérieur qui ne représente que 15% de sa production de ses demandes. C'est un chiffre tout à fait raisonnable, alors que ce pays, comme vous le savez, est un très grand producteur de matières premières et de produits agricoles. Donc ça veut dire que ces pays n'ont pas voulu recourir au schéma chinois et des dragons asiatiques de l'exportation à tout prix.
Tout à l'heure, vous disiez que que les Chinois maintenant étaient prisonniers de leur courant d'exportation. Oui. Comment on peut sortir finalement de cette espèce de duo un peu pervers qu'il y a entre les États-Unis et la Chine?
Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler. Là, c'est vraiment une des grandes questions énigmatiques du proche avenir. Est-ce que la parité actuelle du yuan vis-à-vis des monnaies des grands pays occidentaux va se maintenir ou pas? Est-ce que des pays comme les États-Unis vont résister à la nécessité protectionniste pour continuer sur cette voie dangereuse? Ça, c'est une des grandes énigmes de l'avenir. Alors, la Chine, un point me préoccupe actuellement, c'est que la Chine a eu si peur de la récession mondiale qu'elle a relancé de façon disproportionnée son économie. Actuellement, le crédit à la consommation, actuellement, la demande chinoise augmente, mais elle augmente surtout, on le voit bien, que le marché automobile, qui est devenu le premier du monde, par une explosion du crédit à la consommation. Bon. Donc nous pouvons très bien voir, après la bulle du crédit aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, la bulle du crédit à la consommation en Chine. Ça n'est pas à exclure. Et donc c'est une des grandes inconnues des deux années à venir, savoir comment la Chine va réussir à résorber sa bulle de crédit sans trop de dégâts. Et vous voyez bien comment elle a pris peur du fait de la contraction du commerce mondial résultant de la crise financière et de la crise économique en Occident, ce qui l'a amené à probablement commettre une erreur d'ajustement conjoncturel.
C'était donc J'ai dû louper un épisode, les entretiens de Pascal Fourier, avec aujourd'hui Jean-Luc Gréau, auteur en 2005 de L'avenir du capitalisme et en 2008 de La trahison des économistes, livre dont je ne peux que vous recommander la lecture. Et puis je ne peux aussi que vous inviter à écouter la deuxième partie de cet entretien. À bientôt !